Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et c'est l'heure du journal de Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Une fusillade a fait 3 morts hier soir à Ollioules dans le Var.
Sans doute un règlement de compte qui a mal tourné. Une des victimes est une vacancière qui était sur son scooter quand elle a reçu une balle perdue. Nous serons sur place dans un instant. L'épilogue d'un Tour de France rocambolesque, c'est finalement un jeune Colombien de 22 ans, Egan Bernal, qui est arrivé en jaune hier soir sur les Champs-Élysées. Depuis ce matin, la Terre vit à crédit. 29 juillet, c'est le jour du dépassement. On vient de consommer tout ce que notre planète peut produire en une année. Et puis la canicule booste les vacances à la montagne. On ira respirer un peu de fraîcheur et d'air pur dans le massif du Vercors.
Un été en France dans la foulée de votre journal, le Tour de France de votre été avec nos correspondants. Nous allons ce matin à Bordeaux à la rencontre de jeunes handicapés initiés au sport de glisse.
RTL Matin.
À Ollioules, dans le Var, donc l'auteur de la fusillade est toujours en fuite.
Trois personnes ont été tuées hier soir dans une station de lavage de voitures de cette commune près de Toulon. Hugo Hamelin, vous êtes sur place pour RTL. Parmi les victimes, une vacancière qui a reçu donc une balle perdue.
Effectivement, c'est une victime collatérale, ça ne fait quasiment aucun doute. Elle et son compagnon passaient en scooter devant cette station de lavage au moment où les rafales de fusils d'assaut ont commencé, c'était vers 19h45. Touchée dans le dos, elle est décédée sur place. L'homme est lui aussi grièvement blessé. Il a été transféré en urgence à l'hôpital Sainte-Muse de Toulon. Il est entre la vie et la mort ce matin. C'est un hasard terrible car ce n'était pas eux qui étaient visés par les tirs, mais deux jeunes hommes connus pour trafic de stupéfiants qui ont été mortellement blessés. Ce couple, âgé de 40 à 50 ans, venait régulièrement en vacances à Ollioules. De nombreuses caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène où je me trouve. Les policiers tentent ce matin d'identifier le ou les tireurs.
Hugo Hamelin à Ollioules dans le Var pour RTL. La ville proche de Sanary-sur-Mer se réveille sous le choc ce matin. Son maire, Robert Benenvetti.
Je suis très en colère parce que malheureusement le drame est arrivé. C'est probablement ou un règlement de compte ou une reconquête d'un réseau ou quelque chose qui ressemble à ça. Enfin, en tout cas, ça ressemble à ça, on verra bien. Quand on m'explique que certains très jeunes, 10 ans, 12 ans, 14 ans, sont à l'extérieur en pleine nuit pour faire des surveillances et qu'ils sont rémunérés pour ça, j'ai dit là, ils mettent le doigt dans un engrenage qui se termine par ce qu'on a constaté là. Et donc ça, je dis aux parents, quand on a des enfants qui sont mineurs, à partir d'une certaine heure, on les garde chez soi.
Robert Beneventi, le maire d'Ollioules avec Hugo Hamelin pour RTL. Fin de garde à vue pour Jérôme Rodriguez. Cette figure du mouvement des Gilets jaunes a été libérée hier soir après avoir été entendu par les gendarmes, accusé de violence conjugale par sa femme enceinte. Le parquet prendra une décision ultérieurement après examen du dossier, explique le procureur de La Roche-sur-Yon qui précise que les déclarations de la compagne ont varié au cours de la journée. Il s'agissait finalement, selon elle, d'une banale dispute verbale après laquelle elle a fait une crise d'angoisse. Elle accuse même le procureur de la public d'avoir fait, je cite, un coup de pub en plaçant Jérôme Rodriguez en garde à vue.
Face à la répression et au risque d'agression, les prostituées trouvent refuge sur Internet.
Ouais, le phénomène explose selon un rapport qui évoque même une industrialisation en plein essor. Désormais, les jeunes femmes et les jeunes hommes ne sont plus sur les trottoirs, mais sur Instagram, Tinder, Snapchat. La prostitution s'est adaptée, Sébastien Rouxel.
Eh bien, la prostitution en ligne a tout simplement supplanté la prostitution de rue. Aujourd'hui, 62% du travail du sexe se fait via Internet. Alors, difficile de savoir combien de personnes cela représente exactement, mais sur l'un des sites d'escorte les plus visités, on dénombre pas moins de 14 000 annonces rien que sur la France. Cette révolution, elle s'accompagne d'un changement de profil. Les prostituées sont de plus en plus jeunes, beaucoup le font pour payer leurs études, et on retrouve même de plus en plus de mineurs, souvent victimes du proxénétisme des cités. C'est comme ça que la Fondation Celle l'appelle, ce sont des réseaux gérés par des jeunes délinquants. Les garçons sont eux aussi plus nombreux, même si les femmes restent très largement majoritaires. Dernier changement, le nombre de prostituées françaises explose. C'est même devenu l'une des nationalités les plus représentées sur Internet, aux côtés des Nigérianes et des Chinoises.
Les précisions de Sébastien Rouxel pour RTL.
RTL Matin, 7h04.
Un rapprochement entre la France et la Russie. Emmanuel Macron va recevoir Vladimir Poutine au fort de Brégançon.
La rencontre entre les deux chefs d'État est prévue pour le 19 août prochain, soit quelques jours avant la tenue du G7 à Biarritz. Vladimir Poutine qui fait actuellement face à une contestation sans précédent dans son pays. Près de 1400 opposants ont été interpellés samedi alors qu'ils manifestaient dans les rues de Moscou pour réclamer des élections libres. Une dérive inquiétante pour Nicolas Crameyer d'Amnesty International.
dans les précédentes années, on avait déjà vu un certain nombre d'empêchements pour qu'un certain nombre de candidats puissent se présenter. Mais là, on a l'impression que les autorités russes mettent tout en œuvre pour tout simplement empêcher l'opposition de pouvoir se présenter à des élections, encore une fois, locales, donc qui n'ont pas un enjeu national. Et donc, on est extrêmement scandalisé de cette nouvelle dérive. Hein. C'est vraiment un nouveau cran dans la répression de la liberté d'expression en Russie qui est en train de s'exprimer.
Nicolas Crameyer d'Amnesty International avec Thomas Dulin pour RTL. L'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexeï Navalny, est en prison depuis mercredi dernier. Son état de santé suscite l'inquiétude. Il a été transféré dans un hôpital hier, officiellement, après une réaction allergique, une réaction bizarre selon son entourage qui soupçonne plutôt un empoisonnement. Alexeï Navalny n'a jamais eu d'allergie selon son médecin personnel. La fusillade en Californie a fait 3 morts selon les médias locaux qui rapportent le témoignage d'une jeune femme. Elle dit avoir aperçu un homme blanc d'une trentaine d'années ouvrir le feu dans toutes les directions avec un fusil sur une foule réunie pour un festival à Gilroy au sud de San Francisco. Et puis à Hong Kong, nouvelle journée de violence hier entre les dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie et les forces de l'ordre. Ça fait désormais 8 semaines qu'a débuté la contestation contre le gouvernement local pro-Pékin. La police avait interdit les rassemblements et elle a tiré des gaz lacrymogènes et des balles de caoutchouc contre les manifestants qui ont riposté en lançant des briques et des pierres.
RTL Matin 7h06. RTL Tour de France 2019.
Un Français en jaune sur les Champs-Élysées, on en a rêvé, mais ce n'est pas encore pour cette année.
Et pourtant, on y a cru, hein, plus fort que les années précédentes, au terme d'une 106e édition, pleine de suspense et de rebondissements. Julian Alaphilippe a conservé son maillot jaune pendant 14 jours. Il est finalement désigné coureur le plus combatif. Romain Bardet, qu'on a senti en difficulté cette année, repart avec le maillot à poids de meilleur grimpeur. Et puis, on retiendra aussi forcément la belle performance de Thibaut Pinot, malgré son abandon pour blessure à 2 jours de l'arrivée. Un Tour de France dont le public devrait se souvenir longtemps, Quentin Vinet.
Renaud et Thomas sont unanimes quand ils repensent aux 3 dernières semaines.
J'ai adoré. Un beau Tour de France.
Un Tour de France pas comme les autres.
On voit un renouvellement quand même.
Le père et le fils expliquent qu'ils ont passé un bon mois de juillet grâce à la Grande Boucle.
J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre chacune des étapes, tous les jours.
Ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes.
Non, je zappais parce que ça m'ennuyait de voir des équipes dominatrices avec des coureurs qui n'avaient pas de panache. Moi j'aime le vélo depuis très longtemps. J'ai repris plaisir à regarder le Tour.
Un Tour de France avec des attaques et du suspense.
Et j'ai trouvé que là il y a eu plus de bagarres, de panache.
Et sans parler cette année des oreillettes ou des capteurs de puissance.
Là, on parle de mollets, on parle de jambes. Les mecs, ils ont les jambes.
Et j'ai aussi trouvé ça très satisfaisant qu'il n'y ait pas de gros leaders qui verrouillent le Tour.
Renaud et Thomas pensent bien sûr à Pinot et à Alaphilippe, mais pas seulement.
Alfredo, Rosetto, on a retrouvé vraiment des guerriers.
Et tant pis s'ils ne terminent pas sur le podium au classement général.
On espère qu'à chaque fois, l'année d'après, il y en aura un. Mais bon, Alaphilippe nous donne de bons espoirs. Même Pinot, même Bardet, qui depuis plusieurs années.
Il a maillot à poids.
On n'est pas en train de critiquer les Français ou de dire ils auraient pu faire ça, ils auraient dû faire ça.
Alors, vivement l'année prochaine, conclut le papa.
Ah oui, vivement l'année prochaine, bien sûr, oui.
Persuadé que les Français brilleront à nouveau.
Merci Quentin Vinet. L'année prochaine, il faudra encore se méfier d'Egan Bernal, le jeune Colombien qui a fait sensation en remportant le Tour de France à l'âge de 22 ans seulement, après avoir partagé une coupe de champagne lors de la dernière étape hier en direction de Paris. Il est monté sur le podium des Champs-Élysées, la fierté de tout un peuple.
C'est le premier Tour de France que l'on gagne et ce n'est pas facile de croire à tout cela. Tellement de Colombiens ont essayé de le remporter. On a une grande histoire avec ce sport. Plusieurs coureurs ont gagné le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, mais jusqu'à présent le Tour de France, jamais. Et ce sont des émotions fortes. La Colombie le mérite et je suis fier d'être le premier à y arriver.
Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France, avec Nicolas Jorgerot pour RTL. Notez également que cette ultime étape de la Grande Boucle a été remportée hier soir par l'Australien Caleb Ewan.
Et puis je vous rappelle que dans moins de 10 minutes maintenant, nous entendrons les confidences de Julian Alaphilippe qui s'est confié donc à Nicolas Jorgerot pour RTL.
Depuis ce matin, l'humanité vit à crédit. C'est le jour du dépassement. 29 juillet, on a consommé en 8 mois tout ce que la planète produit en un an. On a pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé davantage de terre que ce que la nature peut nous offrir au cours d'une année, précise le WWF France. Cette date a reculé de 3 jours par rapport à l'an dernier et de 2 mois par rapport à il y a 20 ans.
Vous nous proposez de partir en altitude pour terminer le journal.
Oui, on a vu des belles images de montagne ces derniers jours avec le Tour de France. La montagne qui fait rêver de plus en plus de Français, surtout lorsque les températures atteignent des sommets. Pendant la canicule, on peut se rafraîchir en se baignant à la plage, hein, c'est vrai. Mais visiblement, Nerissa Imani, rien ne vaut l'air pur de la montagne.
Dans le Vercors, le camping des quatre montagnes est complet depuis plusieurs mois, mais le téléphone n'arrête pas de sonner.
De 6h30 le matin à 23h en continu.
Loïc, le directeur.
On a senti avec la canicule une très très forte demande qu'on n'a pas pu satisfaire. On est à 1000 mètres d'altitude et c'est ce qui fait que les gens viennent chercher la fraîcheur. Même si en journée il fait chaud, les nuits sont fraîches et on dort bien, on peut se reposer.
Parmi les nouveaux adeptes de la montagne, Eric et sa femme, installés dans un mobilhome depuis une semaine, pour eux, la plage c'est terminé.
On s'embête à la plage et à la montagne, ce qu'on aime bien, c'est le côté ressourçant. Par exemple, là, on est sur la terrasse et puis on arrive à avoir une belle profondeur de vue. C'est pas pollué. Voilà, donc la montagne, ça nous gagne.
Les vacanciers sont aussi à la recherche de tranquillité, de calme, mais l'argument économique est le plus important pour Marie, maman de 3 enfants.
En bord de mer et puis ici, ça n'a rien à voir. L'année dernière, pour 10 jours, on avait dû payer 1 800 et là, on a payé que 1 300. Donc voilà, ça fait beaucoup.
Selon le dernier baromètre Ipsos Europe Assistance, 69% des Français partiraient à la montagne cet été.
Un reportage signé Nerissa Emani pour RTL.
C'était le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Vous revenez à 8h.
Oui, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Un été.
RTL, un été en France.
Un été en France.
Un été en France ce matin avec de jeunes handicapés initiés tout au long de l'année, également cet été, au sport de glisse et notamment au skate. Ça se passe à Bordeaux. Une association fondée par un jeune lui-même tétraplégique propose de dépasser les a priori praticables. C'est le nom de cette association, mais de jeunes handicapés sur des skateboards. Sensation forte garantie. Reportage de Philippe de Maria.
Bienvenue dans un skatepark grand format, un immense entrepôt dans le complexe Darwin en bord de Garonne. De jeunes sportifs défient des rampes en bois, un autre groupe s'équipe.
Ça c'est pour les coudes, ça c'est pour les deux coudes et ça c'est pour les genoux et casque. C'est obligatoire le casque.
Mathieu est un jeune handicapé qui rêve de faire de la planche à roulettes.
Je voudrais faire du skate dans la rue et parce que je trouve que c'est un sport bien. La plupart des jeunes font du skate, alors c'est bien. Il y a la vitesse, il y a des bosses et tout, et après ça va.
Alors Mathieu se lance dans l'aventure avec Rico, diplômé d'un brevet d'État, un pro du skate.
Tu te souviens comment on fait ?
Oui, t'es debout, il faut que tu sois plié, c'est ça ?
Ouais, on plie un peu les jambes.
Ah, et la genouille est en train de se détacher un peu.
Tu te souviens comment on dirige la planche ? Tu sens la planche qui bouge ? Ok. Ouais. Allez, on commence.
Ah, pas trop vite.
Mais regarde la route quand même.
Pour le moniteur, c'est un moment spécial.
Déjà, c'est des regards, des sourires, parce que des fois, même nous, on n'a pas de mots. Et justement, c'est juste une petite connexion avec un petit peu de brillant à se dire, c'était cool, on va recommencer, voilà quoi.
D'autres jeunes, plus lourdement handicapés, restent en fauteuil roulant adapté. Le moniteur pousse le fauteuil en courant derrière. Les réactions sont à la hauteur des sensations.
C'était bien.
Ouais, il n'y a pas de quoi.
Wilfried Panatier est le fondateur de l'association Praticable. Il fournit le lieu, le matériel, il organise. Il est lui-même tétraplégique après un accident de body surf.
Eux, ils ont accès à ces sports-là atypiques et qui, de prime abord, riment pas forcément avec handicap. C'est des personnes qui rêvaient depuis des années d'avoir accès à ce type de sport et vous pensez... après un accident, plus pouvoir en faire de leur vie, donc ça c'est important quoi.
Mathieu, justement, termine son tour en skate.
C'était super bien le skate, et j'aime bien ce sport. C'était super bien l'équilibre. Il m'a fait tourner, reculer, et on était sur des pentes. Je voudrais en refaire.
Et après le skate, Mathieu pourra, s'il le souhaite, grâce à l'association Praticable, tout au long de l'été, s'initier au wakeboard ou pourquoi pas au karting.
Un été en France, signé ce matin, Philippe de Maria.